Au nom de Jésus. Amen. Avant de prêcher la parole de Dieu, j'ai à cœur de prier pour vous en particulier. Je vous prie d'incliner vos têtes dans la prière, là où les personnes concernées vont se retrouver dans ce que je veux dire. Vous portez un nom connu dans l'histoire de la République. Vous appartenez à une famille dont le père, le patriarche, a eu à exercer des fonctions importantes dans ce pays. À une personne qui a fait du bien tout autour de lui. Certes, qui n'était pas parfaite, car nul ne l'est. Avec le temps, comme il arrive trop souvent, les souvenirs s'effritent et disparaissent. Vous ne rencontrez que mépris à cause du nom que vous portez, à cause de votre appartenance à cette famille-là. Vous ne rencontrez que des problèmes, de l'ingratitude, du manque de reconnaissance, des humiliations. Ce matin, vous êtes là. Vous êtes là, vous vous posez des questions. J'aimerais vous rassurer que vous êtes là où le Seigneur a voulu que vous soyez. Il est le seul qui puisse vous restaurer. L'homme restera toujours un ingrat éternel. Il peut te sourire aujourd'hui, demain il te tourne le dos. Dès lors que tu ne seras plus intéressant. Alors prends courage là où vous êtes. Accrochez-vous à Jésus. Il est le seul qui puisse vous faire sortir de la honte, du mépris. Car quelquefois, vous n'avez pas le courage de dire à quelle famille vous appartenez. Désormais, votre passé est sous l'œuvre de la croix. Désormais, avec le Seigneur, il y a moyen de vivre de nouvelles choses avec lui. Alors saisissez la main que le Seigneur vous tend. Laissez-le vous consoler. Laissez-le vous rétablir dans une relation puissante. Laissez-le susciter en vous cette soif de le connaître pour arriver à partager son cœur et à expérimenter cette autorité dont vous avez besoin pour faire face à toutes ces entreprises, à toutes ces manœuvres de la part de l'ennemi, des manœuvres d'humiliation et de mépris. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous allons revenir à notre thème, à savoir créer, racheter, pour régner dans cette vie-ci. Oh, alléluia. En attendant de régner là-haut, dans son ciel de gloire. Nous sommes appelés, mes amis, non pas, comme je l'ai dit, et je vous le répète, et je vous le répéterai encore, à subir la vie, comme c'est le cas, comme ça a été mon cas, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, à subir les décisions des uns et des autres concernant votre destinée, à être là comme quelqu'un, comme un mouton de panurge, comme une chèvre qu'on traîne, qui n'a pas de volonté, qui est attachée à une corde. Voilà, on l'entraîne partout, et quelquefois, on l'entraîne vers la mort, et la pauvre chèvre ne le sait pas. Le Dieu à qui vous appartenez s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vous a fait naître à la nouvelle vie. Vous avez son ADN. L'ADN divin est en vous. Alléluia. Vous appartenez à la noblesse céleste. Peu importe votre condition sociale, peu importe votre niveau intellectuel, aux yeux de Dieu, tout ça ne compte pas. Que vous ayez des galons ou pas, que vous n'ayez rien qui vous distingue dans la société, une responsabilité politique quelconque, pour Dieu, tout cela n'a aucune importance. Le plus important, c'est d'être avec lui et de laisser conduire par lui. Alléluia. Et puisque vous lui appartenez, sachez que vous avez été créé à son image, à sa ressemblance, pour régner dans la vie. Je ne veux pas revenir sur les choses que nous avons déjà dites, mais j'aimerais vous les rappeler encore, pour que cela arrive à s'ancrer en vous, que vous sachiez que vous n'êtes pas là pour être tout le temps des victimes collatérales des choix des uns et des autres. Oui, c'est-à-dire être là et charrié par les autres. Vous êtes assis comme sur des eaux, dirigés par le vent qui viendrait du nord ou du sud, et vous n'avez aucun choix. Vous êtes là comme sur un radeau, vous voyez, jusqu'à ce que, hélas, vous vous trouviez dans les abysses, jusqu'à ce que vous soyez de l'autre côté. Certes, vous serez sauvés, mais en arrivant de l'autre côté, vous vous rendrez compte que vous étiez passé à côté du plan de Dieu. Vous avez laissé l'ennemi vous dominer. Vous avez laissé l'ennemi choisir pour vous. Nous allons lire dans Luc 10, d'abord le verset premier, et puis ensuite, nous irons au verset 17. Après cela, le Seigneur, en désignant encore 70 autres disciples, et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute la ville et dans tout endroit où lui-même devait aller. Alléluia. Nous avons une mission. Il y a des endroits où le Seigneur veut aller. Avec les yeux de l'Esprit, vous pouvez voir qu'il y a des quartiers entiers qui sont dominés par les pouvoirs des ténèbres. Quand vous passez dans les quartiers, vous sentez la misère, vous sentez que l'atmosphère est chargée des particules spirituelles toxiques. Vous voyez, c'est le règne des bars, des maisons de prostitution, des maisons de passe. C'est l'endroit où l'escroquerie, a son petit trône. C'est l'endroit où, l'honnêteté, l'intégrité, la probité morale, on ne connaît pas. Chacun se débrouille. Chacun essaie de gagner sa vie en volant, en tuant, en arnaquant les autres, etc. Il y a des quartiers comme ça, mes amis, dans le ciel, l'atmosphère est surchargée. Mais le Seigneur voudrait aller dans ces lieux-là. Alléluia. Nous devons l'amener là-bas. Et verset 17, très rapidement, les 70 sont partis. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, je pourrais ajouter, c'est incroyable, c'est à peine croyable, les démons même nous sont soumis en ton nom. Formidable. C'est le même Jésus aujourd'hui. Ces gens-là n'étaient pas des gens constitués autrement. Fait de la même chair que nous. Pécheurs sauvés par grâce comme vous et moi. Cependant, ils ont expérimenté de grandes choses. Et le verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il n'a pas pu résister au ciel. Non. Un mot a suffi de la part de notre maître pour qu'il soit précipité. Vous avez déjà vu comment l'éclair apparaît et puis disparaît. Ça peut prendre quelques secondes. Oui, il y a des éclairs qui durent, mais après, ça passe. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'exousia, l'autorité de marcher sur, de fouler aux pieds, littéralement, de fouler aux pieds, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Oui, nous sommes appelés à dominer ces esprits-là, de méchanceté, les forces du mal qui nous environne. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Oui, nos noms sont là-haut. Personne ne peut les effacer. À moins que nous-mêmes, par notre vie de péché, nous décidons de tout abandonner pour retourner à ce que nous avions vomi. Et donc voilà, et puis enfin le chapitre 5 de Romains, le passage que nous avons déjà lu, qui va nous accompagner pendant plusieurs dimanches. Si par la faute d'un seul, ici il s'agit d'Adam, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Alléluia. Régneront dans... Répétez avec moi. Régneront dans la vie personnelle, dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans toutes les responsabilités qu'ils auront. Car l'ADN qui est en nous, eh bien, c'est l'ADN du roi des rois. Autant il règne dans tout l'univers, autant il règne là au ciel, autant il aimerait que nous expérimentions son règne ici-bas, alors que nous poursuivons notre marche avec lui. Et gloire au Seigneur. Oui, créer et racheter. Non pas pour que nous menions une vie marquée par la médiocrité. Non pas que nous menions une vie où c'est l'ennemi sous son influence qui dirige notre vie, mais rachetés pour régner dans cette vie présente. En attendant, comme nous le savons tous, de régner là-haut dans son ciel de gloire. Et gloire à Dieu. Mes amis, chers amis, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances qui nous environnent, quels que soient les problèmes qui nous cernent, quelles que soient les situations difficiles qui sont là tout autour de nous, que nous vivions en hémisphère nord, en Europe, en Amérique du Nord, que nous vivions sous les tropiques, laissez-moi vous dire une chose, que cette parole que nous venons de lire est valable. C'est une promesse qui est faite à tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Où que nous soyons, peu importe la période dans laquelle nous sommes, peu importe la saison autour de nous, que ce soit la saison des pluies ou la saison sèche, que ce soit en hiver, au printemps, en été ou en automne, eh bien la Bible nous montre qu'il y a moyen de régner, qu'il y a moyen de dominer, qu'il y a moyen d'exercer notre supériorité. D'abord sur toutes ces pensées mauvaises que l'ennemi nous envoie afin de nous distraire. Dominer ses passions charnelles et vivre la réalité d'être le sanctuaire du Dieu vivant. Dieu est saint, nous dit la Bible. Et nous, en tant que son temple, sommes appelés à être saints, n'est-ce pas? Mais nous sommes à chaque fois confrontés à toutes sortes d'impuretés, à toute chose qui exerce une sorte d'emprise sur nous. Voyez-vous, à des liens, à des chaînes. Oui, nous pouvons les dominer. Être véritablement libre, alléluia. Comme quelqu'un l'a dit, il est impossible d'empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez empêcher un oiseau de nicher sur vous. Il est impossible d'empêcher que les mauvaises pensées vous visitent. Nous sommes dans un monde sous l'influence des démons, du diable. Voyez-vous, il exerce une emprise terrible. Nous-mêmes, nous sommes nés dans le péché. Il y a donc en nous cette nature pécheresse. Et c'est normal que si cette nature n'est pas subjuguée, si nous ne mourons pas chaque jour qui passe en nous-mêmes à tous ces péchés, il n'est pas étonnant que cette nature pécheresse en nous, mes amis, eh bien, nous renvoie, agisse en nous au travers des pensées impures. Mais il y a moyen de dominer tout cela, d'exercer notre supériorité, c'est-à-dire la supériorité de l'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme qui est à l'image de Christ, sur l'homme des chairs en nous. Il y a moyen, mes amis, il y a moyen. Avec notre Dieu, tout est possible. Nous l'avons encore chanté, n'est-ce pas? Tout est possible. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il tient l'humanité et la terre tout entière dans sa main. L'univers, ce cosmos qui nous donne tous du tournis, où l'univers commence, où l'univers s'arrête, avec des milliards de galaxies, tout cela se trouve dans la main du Dieu que tu adores, du Dieu que tu sers, du Dieu Tout-Puissant. Et tout ce qu'il dit dans sa parole est oui et amen. Tout est vrai. Vous devez croire, c'est un préalable. Et le diable travaille à semer le doute en nous, à nous amener à relativiser les promesses de Dieu, à nous amener à ne pas croire en disant, mais enfin, c'était pour une autre époque. Oh, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Comment pouvez-vous encore croire dans ces choses-là? Voyez, ces choses, c'est passéiste. Voyez-vous, non. Tout ce que Dieu dit est vrai. Désormais, quand vous lisez la Bible, à un moment, levez-vous. Tenez la Bible. Si vous lisez Jésus est le même hier, aujourd'hui, intérieurement, tenez la Bible. Adressez-vous. Vous ne voyez peut-être pas, hein, mais il y a des réalités spirituelles autour de nous. Je crois que cette parole est la vérité. Jésus est le même hier. Jésus est le même aujourd'hui. Jésus est le même demain. Nous devons confesser cela pour que cela booste notre foi. Oui, toutes ces promesses, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, tout cela est oui et amen. Nous pouvons donc véritablement régner dans la vie et devenir des vainqueurs, mes amis, mener une vie de vainqueur, car c'est sa volonté. Il nous destine à régner. Nous avions perdu le règne dans le jardin d'Éden, avec nos ancêtres Adam et Ève, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, sous la séduction de l'ennemi, et avec la désobéissance, le diable leur avait subtilisé, leur avait ravi cette autorité, cette domination. Mais avec la venue de Jésus, comme nous l'avons vu, mes amis, désormais, l'autorité ne se trouve plus entre les mains du diable. Cette autorité revient au deuxième Adam, Jésus de Nazareth. Cette autorité est dans sa main, voyez, et il la met à notre disposition. Menez une vie de vainqueur, car c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. C'est ce qu'il veut que nous soyons. Car nous avons tout à fait la capacité, par Jésus-Christ seul, de commander, de diriger notre univers personnel, de changer tout ce qui nous entoure. Voyez. Arriver à un moment, amener le changement, là où nous travaillons, où nous voyons ces hommes pervers, ces dirigeants véreux sauter et laisser la place à des gens qui craignent Dieu. Nous avons ce pouvoir, mais malheureusement, nous-mêmes, nous finissons par nous compromettre. Nous entrons dans le système. Voyez-vous? Et là, nous aurons beau dire au nom de Jésus, au nom de ces cela, pas du tout. Voyez-vous? Car, et c'est ça notre message d'aujourd'hui, car nous devons savoir qu'il est important, nous devons comprendre qu'il y a des principes qui déterminent notre niveau d'autorité. Il ne s'agit pas simplement d'être en Christ, mais encore, il s'agit de connaître et de mettre en pratique ces principes qui déterminent ipso facto, mes amis, l'autorité, mais aussi qui nous donne la capacité d'exercer cette autorité, de gouverner. Nous parlerons. Quand on parle de commander, quand on parle de diriger, On parle de gouverner. Mais souvent, quand nous parlons de gouverner, nous pensons tout de suite au gouvernement civil et politique. Non, nous devons d'abord gouverner notre vie sous la conduite du Saint-Esprit. Que ma vie soit soumise à Christ. Je gouverne ma vie selon les principes de la parole et non pas selon les insinuations des uns et des autres et non pas ce que les uns et les autres disent selon telle ou telle autre philosophie, mais selon la parole et la parole de Dieu. Et nous le verrons. Voyez-vous, la grande question sur cette terre, le grand problème sur cette terre, c'est de savoir qui est celui qui dirige, qui domine, qui exerce son hégémonie sur les autres. Eh bien, vous allez retrouver ça à tous les niveaux de la société. Qui commande dans le couple? Est-ce l'homme ou la femme de combat? Oui ou non? Ah oui. Avec la poussée d'activistes féministes, elle dit non, nous sommes tous, il n'y a ni homme ni femme. Nous mettons tous des pantalons, des shorts, qu'est-ce que vous voulez, c'est fini. Et d'autres, c'est ça, c'est la lutte. Quel est le pays qui va dominer cette sous-région? C'est la lutte de pouvoir. Les États-Unis et la Chine, eh bien, s'affrontent, oui ou non? Eh oui, c'est ça. C'est le grand problème. Les États-Unis ne peuvent pas tolérer qu'il y ait une autre puissance qui soit au-dessus d'eux. L'Europe s'accroche. Elle dit non, nous avons droit au gâteau. Les pays émergents, eux aussi disent, oui, ceux qui ont la bombe atomique, qui ont donc un pouvoir, vous voyez, un pouvoir dissuasif. Disent aussi que nous avons un mot à dire. Même aux Nations Unies, il y a une enceinte, une structure, le Conseil de sécurité, avec des membres permanents. Ce sont eux qui décident du sort des nations, oui ou non? Oui ou non? Ah, le problème fondamental, qui va diriger, qui va dominer? Et l'homme est pris là, entre d'un côté Dieu et son royaume de lumière, le royaume de Christ, et de l'autre côté, le royaume des ténèbres, le royaume du diable, avec ses démons, ses esprits impurs, les forces du mal. Oui, les forces du bien opposées aux forces du mal. Les forces de la vie opposées aux forces de la mort. Les forces de la vérité opposées aux forces du mensonge. La bénédiction opposée à la... Et nous sommes au milieu. Qui va nous dominer? Est-ce le monde du diable avec ses principes morbides, funestes, mortifères? Ou alors, c'est le Seigneur, et en lui nous régnons. Alléluia. Et voilà le combat, à tous les niveaux. Le diable va essayer d'exercer sa domination au travers de ceux qui lui appartiennent. De combattre, de vous combattre, afin de vous dominer. Vous voyez, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que désormais, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de fouler aux pieds les scorpions et les serpents, de fouler et de marcher sur toute la puissance, tout est spirituel. Car les hommes qui répandent les antivaleurs, les hommes qui travaillent pour promouvoir la corruption, les hommes et les femmes qui travaillent pour la prostitution, pour l'immoralité, pour le règne du mal, sont manipulés par les forces du mal. Vous voyez, mes amis? Et là en face, Il y a un royaume, le royaume du Fils de Dieu, le royaume de lumière, avec une armée puissante. Et le Seigneur, qui a vaincu à la croix, met à notre portée cette autorité. Alléluia. Mais il faut connaître les principes. Quels sont les principes? On en a esquissé au Nayot tous les vendredis. J'en ai parlé très rapidement. Voyez-vous, car il est important de les connaître. Pourquoi les connaître? Parce que nous avons besoin d'autorité. Tout en ayant la même grâce, le même potentiel, la même autorité de nous approcher du trône de la grâce pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, ça, c'est à la portée de tout le monde, oui ou non? Enfin, je veux dire à la portée de tous les enfants de Dieu. Mais lorsqu'il est question de combat, lorsqu'il est question de régner véritablement, eh bien, nous n'avons pas tous la même dose en ce qui concerne l'autorité spirituelle. Font preuve d'autorité, exercent cette autorité dans leur vie. Et nous verrons comment ceux qui ont compris ces principes et qui les mettent en pratique. Car nous avons besoin de l'autorité. De l'autorité dans la prière. Vous connaissez tous la place que la prière occupe dans notre place, n'est-ce pas? Nous voulons chanter véritablement pour Dieu. Nous voulons danser véritablement pour Dieu. Nous voulons le louer avec autorité, alléluia. Pas comme des mendiants. Seigneur, c'est une petite chenille. Tu es plus qu'une chenille, hein. Vous voyez, quelquefois c'est de la fausse humilité. Et lorsque je dis que je suis appelé à régner par Christ, eh bien je ne fais pas preuve de l'esbrouffe, je ne fais pas preuve d'orgueil, pas du tout. Je ne fais que proclamer. Tout dépend de la manière dont j'interprète cela. Si je pense que régner par Christ, c'est me transformer en deuxième Christ sur terre, et commencer à servir les gens, à les vampiriser, les caporaliser, les soumettre à une dépendance totale et entière au point où ils n'auraient même plus de choix, alors là, ça ne sera plus Dieu. Voyez? L'autorité dans la prière, on en a. Que ce soit dans la déclaration, ce que nous verrons, proclamer des décrets divins. Les promesses sont là, toute la Bible en est remplie, oui ou non? Mais à un moment, sous l'autorité de Dieu, ayant reçu une promesse particulière, dans une circonstance particulière, revêtu de cette autorité, eh bien, je décrète. Vous savez ce que c'est décréter? Ah, je décrète. Comme au gouvernement, hein? Le président ou le premier ministre décrète. Quand il y a un décret, tout le monde fait quoi? Se soumet. Et là, nous décrétons. C'est-à-dire cette promesse-là. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ah! La parole s'impose à moi. Et cette promesse devient un décret divin que j'ai maintenant. Et je dois décréter. Je dois déclarer. Alléluia. Je dois proclamer. Ce n'est pas simplement une proclamation verbale. Ce n'est pas simplement le fait de me faire l'écho d'une promesse de la Bible. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Mais cette fois-ci, cette parole devient le rhéma dans mon cœur. Parce que vivant avec Dieu, c'est ça qu'il aimerait que je proclame. Et je prends autorité. Et je dis, si Dieu me donne ces lieux, donc ça veut dire quoi? Avant que je vienne dans ces lieux appartenaient à quelqu'un d'autre. Oui ou non? Ah, ces territoires appartenaient à l'autre. Mais maintenant que j'y suis, eh bien ce territoire m'appartient. Parce que Jésus m'a dit, m'a confirmé, que ces lieux seront un lieu qui lui sera consacré. Et nous sommes à la borne. Alléluia. Acclamons le Seigneur. l'indispensable prière d'autorité. Mes amis, cette prière d'autorité qui fait partie de l'arsenal spirituel que le Seigneur a mis à notre disposition. Cette prière, mes amis, qui fait partie de la panoplie spirituelle, de l'armure spirituelle. Lisez Éphésiens 6, vous allez voir. La Bible nous dit, prenez toutes les armes. Nous sommes dans un combat, ne l'oubliez pas. Mais ce n'est pas un combat contre les individus que nous voyons, comme certains pasteurs poussent leurs fidèles à maudire les uns les autres. Ce n'est pas biblique. Je ne peux pas me transformer, mes amis, en juge. Il y a un juste juge. Je ne peux pas vouloir, moi, me venger, car lui a dit quoi ? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi Jésus a dit, si votre ennemi, c'est lui qui vous a fait du mal, qui vous a escroqué, a soif. S'il continue comme ça, il va mourir de soif. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui tourner le dos en disant, Seigneur, je te remercie, il va crever maintenant. Ça, c'est pas biblique. Donne-lui à boire. S'il a faim, vous vont faire avancer le royaume de Dieu. Car, s'il a eu à voler, s'il a eu à vous arnaquer, c'est qu'il n'était pas un homme normal. Un homme normal ne peut pas vouloir s'approprier des biens des autres. Voilà. Donc ça veut dire que son cerveau là a été influencé ou déformé. Il a été taillé, il a grandi dans un environnement où tout le monde parle d'arnaque, de vol, de mensonge, d'escroquerie. Donc il est le produit de l'escroquerie familiale. Il est né parce que son papa avait escroqué sa maman. Ah oui. Par des discours marqués par l'escroquerie, le mensonge. Voilà. Ah non, et tout ça, je vais t'épouser. Il avait promis à l'autre, à ta maman, monts et merveilles. Et puis après, ta maman est tombée enceinte. Eh bien, l'escroc a fait quoi? L'escroc est parti. L'enfant, produit de l'escroquerie, naît. Et en naissant, la maman lui rappelle tout ça. Ton papa, c'est un grand mohibi. Un escroc. Tu es déjà passé, tu vois le magasin, on passe là. Il avait dévasté le magasin là. Comment, lui seul, comment il avait pris tout le produit? Non! Il est allé avec un faux chèque. Il a fait ceci, il a fait cela. L'autre est tombé dans son panneau. Il a cru faire une bonne affaire. Il a donné toutes ses économies. Et ton papa s'était taillé. Il était parti. Et donc, c'est un escroc, produit de l'escroquerie, façonné par l'escroquerie, car ayant vécu dans un milieu où il n'y a jamais eu de valeurs. On n'a jamais parlé de probité morale, du respect des biens des autres. Non! Sorozui, au moins, il joue à caca. Voilà. Ce que tu vois, il faut prendre. Et c'est comme ça qu'il a eu à t'escroquer. Et puis un jour, tu le vois. Parce que toi, finalement, ayant la foi, Dieu t'a réhabilité autrement. Tu le vois en train de souffrir. Donne-lui à boire. Parce que l'ennemi qui dirige sa vie, eh bien, continue à faire avancer son règne partout où il amène cet escroc. Car le règne du diable, c'est pour faire pleurer les gens. Oui ou non? Alors, en lui faisant du bien, vous faites quoi? Non seulement vous faites du bien à l'escroc de naissance, mais vous faites reculer à celui qui les manipule. Là, il recule. Et si vous voulez le faire reculer encore davantage, prends-le, parlez-lui du Seigneur. Apportez-lui l'amour du Christ. Dis-lui que malgré ce qu'il t'avait fait, le Seigneur l'aime. Et que toi aussi tu l'aimes. Et que tu as tout oublié. Tu lui as même pardonné. Et que tu lui accordes ton pardon maintenant. Et puis tu lui amènes le Seigneur. Quand il croit en Jésus, et là, le royaume des ténèbres perd un de ses activistes. Un de ses membres éminents. qui faisait des dégâts, qui permettait au diable de faire des dégâts partout. Voilà comment on peut faire reculer les ténèbres. Donc on a besoin de prières d'autorité. Alléluia. Pour conquérir les territoires pour Jésus-Christ. Vous voyez? Et parmi les armes là, disais-je, étais-je en train de dire, il y a la prière par l'Esprit. Priez par l'Esprit en tout temps. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de suppliques. Veillez-y avec une entière persévérance. Et puis ensuite, priez pour tous les saints, etc. Cette prière-là, par l'Esprit, est une prière revêtue d'autorité. Mes amis, quand nous faisons cette prière, laissez-moi vous dire une chose. Eh bien, il y a des changements qui se font d'abord dans notre vie. Car c'est impossible d'expérimenter le jaillissement, la manifestation de la puissance de Dieu à l'extérieur sans l'avoir expérimenté au préalable vous-même. Alléluia. Donc ça vous change cette prière-là. On a parlé comme principe, relation intime avec le Seigneur, je reviendrai. C'est important. La qualité de notre relation détermine le niveau d'autorité. La qualité de notre relation avec le Seigneur. Plus nous sommes proches du Seigneur, plus eh bien, nous développons cette capacité à exercer cette autorité, ce pouvoir. Il y a un autre principe, qui sont deux principes en un, car ils sont liés, les deux, l'un à l'autre. Ce sont des associés inséparables. C'est comme des jumeaux siamois, collés l'un à l'autre. Vous avez déjà vu hein, ces bébés-là. Ils ont deux têtes, mais ils sont collés, ils ont deux jambes. Mais deux têtes, deux mains, un seul tronc, voilà, mais deux coups, des choses comme ça. Ou alors ils sont collés l'un à l'autre. C'est ce principe-là. La parole de Dieu, la connaissance de la parole et la foi. Vous ne pouvez pas dissocier la foi de la parole de Dieu. Voyez-vous, et vous ne pouvez pas dissocier la parole de Dieu de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Acclamons celui qui nous a laissé sa parole. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre principe qui est souvent ignoré, qui est souvent méconnu. Un principe fondamental qui détermine, mes amis, notre niveau d'autorité. Ce principe, si nous l'intégrons à notre vie, nous serons revêtus d'autorité. Vous savez, quand vous êtes revêtus de l'autorité de Dieu, vous pouvez vous présenter devant votre chef. Il vous regarde. Il vous dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, chef. J'ai ceci, j'ai cela. Je dois faire ceci. Et dit, vous avez mon accord. Un chef difficile. Et pourtant, devant l'autorité de Dieu, personne ne peut résister. Nous allons le voir avec des exemples concrets. Alléluia. Oui. Le Seigneur donne l'autorité spirituelle à l'homme ou à la femme qui lui appartient et qui a la même pensée que lui. Qui partage la volonté de Dieu. Qui ne cherche pas à faire ce que lui veut que Dieu fasse, mais qui entre dans la pensée de Dieu. Alléluia. Qui est habité par la pensée de l'Esprit. Qui connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Alors comment savoir que dans cette situation que je vis, où mes droits sont bafoués, comment savoir que dans cette situation de maladie, voyez, c'est telle parole de la Bible, c'est telle promesse que je dois utiliser? Comment savoir que dans cette circonstance particulière, la volonté du Seigneur est que je prenne telle ou telle autre promesse et que je la proclame et que je décrète. Comment le savoir? Comment connaître la pensée de Dieu? Eh bien, il faut être habité par la pensée du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez toute l'importance, mes amis, de connaître l'Esprit de Dieu. Vous comprenez pourquoi nous avons baptisé ces trois hangars, les Nayot, les lieux où le Saint-Esprit agit, où le courant prophétique souffle. Le courant prophétique, pas seulement dans la dimension révélationnelle, révéler des choses qui sont là, cachées, ou même nous dire ce qui va arriver. Vous voyez? Mais aussi le courant prophétique, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Ézéchiel reçoit cette parole de la part de Dieu, il dit « prophétise sur ces ossements ». Dis « ossements ». Vivez. Eh bien, il prophétise. Qu'est-ce qui se passe? Les ossements ont repris vie. Mais ils n'avaient pas d'esprit en eux. Il dit, appelle le Saint-Esprit. Parle à l'Esprit. Dis, Esprit, viens des quatre vents. Entre dans ces ossements qui sont revenus à la vie. Et le Saint-Esprit a agi. C'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée du Père. C'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Jésus. Travaillez votre intimité avec lui, alléluia. Ainsi, il va vous donner sa pensée dans cette situation précise. En priant, pour avoir plus d'autorité, il pourra vous dire, par rapport à cette situation, tu dois prendre 1, 2 ou 3 jours de jeûne. Voilà. Il t'a parlé, non? Il sait pourquoi. Tu accompagnes ta prière de ces 3 jours de jeûne. Et puis tu pries. Tu pries par rapport à la situation en jeûnant au bout de 3 jours. Parce que tu auras obéi. Tu auras entré dans la pensée de l'Esprit. Laquelle? Prie et jeûne pendant. À ce moment-là, tu es entré dans la volonté de Dieu. Tu es allé à la rencontre du cœur de Dieu. Et quand on vit le plus près du cœur de Dieu, on peut alors comprendre ce qu'il attend de moi dans cette situation. Et lorsque j'ai compris, que j'ai reçu cette pensée, je n'ai d'autre comme choix que de décréter la victoire. Et de dire maintenant que cette porte soit ouverte. Et la porte s'ouvrira. Car il nous a donné le pouvoir de fermer, mais aussi le pouvoir d'ouvrir. Acclamons son nom. C'est ça le rhéma. La parole écrite, celle que nous lisons tous les jours, dans cette Bible, 66 livres, et dans chaque livre, il y a des promesses, oui ou non? Dieu nous parle à travers. Il y a un moment par rapport à ma circonstance, par rapport à mon problème. Il y a une pensée qui s'impose. Alléluia. C'est la pensée pour le besoin dans lequel je me trouve. C'est la pensée par rapport au problème auquel je fais face. Voyez-vous, en entrant dans cette pensée-là, j'entre dans la volonté de Dieu. Et en entrant dans la volonté de Dieu, je deviens la volonté de Dieu personnifiée. Alléluia. Et quand la volonté de Dieu se manifeste, donc cette porte s'ouvre là, moi je deviens cette volonté là. J'ai proclamé, eh bien, lui a accompli. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que nous pouvons régner dans la vie. Alléluia. Prenons un cas très basique qui nous concerne tous. Et ensuite nous prierons. Prenons notre pays. Notre chère République, que nous aimons tant, qui passe depuis des années par des moments difficiles, l'Est est toujours en proie à la rébellion, avec tous les malheurs, toute la souffrance que cela entraîne. Un peu partout ici, il n'y a pas très longtemps, les pluies se sont abattues sur la ville de Kinshasa, et ça a provoqué des inondations qui ont détruit des maisons, des biens, qui ont même emporté des vies. N'est-ce pas? Ce qui est extraordinaire, permettez-moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, avec le Seigneur, nous étions au Nayot lors du programme de prière. À un moment, le Seigneur m'a donné une vision. Sur le champ, je n'avais saisi que le sens spirituel. J'ai vu des torrents, des eaux, comme du fleuve. Qui se souvient de ça au Nayot? Voilà. Qui charriaient tout sur leur passage. Et même des personnes. On voyait des gens, je ne voyais que des têtes. Je vous ai partagé ça, non? Nous sommes le mardi. Mardi 1er avril. Et puis il y a eu d'autres messages, des révélations que le Seigneur nous avait données. Pour ceux qui étaient au Nayot, peuvent se souvenir. Nous avions prié. J'avais saisi le sens spirituel. C'est-à-dire, alors qu'il y a ces eaux sales, nous devons prier pour que du sanctuaire divin, l'eau coule comme dans la vision d'Ézéchiel, non? Et que ce eau amène la vie et rentre dans ces eaux sales. N'est-ce pas? Et nous avions prié. Mais j'étais loin de m'imaginer. Il y a la vidéo, on peut préparer ça, parce qu'on a toujours dit à la borne, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prophétie. C'est parce que nous, on ne présente pas ça comme des Oscars. Non. C'est lui qui parle, c'est à lui que revient la gloire. Je n'ai saisi que le sens spirituel. Mais il y avait ce sens physique aussi. Nous avons terminé le vendredi. Déjà le vendredi, il y a eu un nuage sombre. Personnellement, j'ai dû prier. C'est une menace. J'ai dit, Seigneur, c'est le dernier jour. Il faut que les gens viennent pour la dernière bénédiction. J'ai prié contre ces nuages. J'ai dit, nuage, pluie, nous allons avoir notre réunion. Si tu tombes, c'est ça après. De toute façon, on a besoin d'eau, hein, n'est-ce pas? On a commencé. Quand on a terminé, le Seigneur avait agi. Quand on a terminé, ceux qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie a commencé. Et c'est cette pluie, le vendredi là, qui va continuer toute la nuit jusqu'au samedi et qui a amené ces dégâts. Et on a vu, sur le champ, je n'avais pas fait le lien. Et quand j'ai vu les images, par après, on m'a envoyé des images. Je voyais des gens dans cette eau sale. Ça fait tilt. Hein. Avec ma maman, j'ai dit, mais au fait, Seigneur, c'est vrai. Cette vision-là avait un double sens. Dieu parle. Alléluia. Donc, nous prions pour les sinistrés. C'est important. Nous prions pour notre pays, pour différents besoins. Et c'est un devoir pour prier. Nous avons ce devoir de prier pour ce pays. La Bible nous le demande. Et tous les chrétiens qui m'entendent de d'autres pays, vous avez le devoir de prier pour votre pays. Et gloire au Seigneur. Alors, quand nous disons, nous prions, concrètement, nous faisons quoi? Nous nous tournons vers le Seigneur, non? Nous nous tenons devant lui et nous lui présentons notre pays dans ses différents besoins. Seigneur, bénis les sinistrés. Seigneur, souviens-toi de Goma, de Bukavu, mais enfin, de tout l'Est. Souviens-toi d'autres problèmes auxquels le pays est confronté, etc. Mais maintenant, regardez, je vais terminer par là. Alors que nous sommes là dans la présence du Seigneur, est-ce que nous ressentons ce que Dieu ressent quand il regarde à la RDC Congo? Est-ce que nous ressentons la souffrance du Seigneur de voir dans cette partie de notre cher et beau pays des hommes et des femmes avec des enfants marchant des kilomètres à pied, dont certains ont fini par mourir d'épuisement, des enfants qui n'ont rien. Quand Dieu voit cela, quand Dieu regarde aux sinistrés ici, quand Dieu regarde dans tous ces quartiers où vous avez de jeunes gens dont la vie est détruite par la drogue, de jeunes filles par la prostitution. Qu'est-ce que Dieu ressent quand il voit tous ces gens résignés, mes amis? Ces gens qui sont comme des laissés pour compte, des gens déshérités, des gens qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner, qui n'ont pas d'argent pour payer le Minerval. Quel est le cœur de Dieu quand il voit toute cette souffrance, d'après vous? Dieu se réjouit? Je vous pose la question. Lui qui est la compassion même. Laissez-moi vous dire une chose, son cœur saigne quand il voit toute cette souffrance au milieu de nous, peu importe l'origine ou la cause, car la souffrance a les mêmes conséquences, mes amis. Nous devons arriver à partager le sentiment de Dieu quand nous prions. C'est alors qu'il nous donnera l'autorité avec laquelle nous prierons pour faire reculer les ténèbres qui inspirent les uns et les autres pour provoquer ces dégâts-là. Et même derrière les éléments déchaînés de la nature, nous pouvons prendre autorité. Je n'ai que fait prier pour ces nuages qui menaçaient. Dieu a répondu. Il est capable d'arrêter certains fléaux, mais pour autant que nous agissions avec intelligence. Voyez-vous? Je me souviens, je termine par là et nous allons prier. Nous sommes en 2023. L'un s'est déstabilisé par la guerre. Des images nous parvenaient de partout. On avait eu à prier ici, un peu partout à travers le pays. Il y a eu des initiatives appelant les uns et les autres à la prière. C'était des très très bonnes initiatives. Je me souviens ce matin-là, j'étais dans la prière, je commençais à prier pour l'Est, pour les enfants de Goma, parce qu'à l'époque c'était Goma et puis vers le Nord. J'ai prié, Seigneur, tu vois toutes ces femmes, normalement, comme on peut voir une femme, il dit, tiens, Seigneur, tu vois cette femme qui marche un pied, opère un miracle pour que peut-être un véhicule ou un motard, un taxi motard passe par là, pour la prendre, regarde la pluie qui menace. On regarde seulement, et puis on intercède, n'est-ce pas? Et donc j'intercédais. Mais tout d'un coup, j'ai été envahi par une compassion au point où je me suis mis à pleurer. J'étais à genoux, là, chez moi, au salon. Je ne pouvais pas m'arrêter, mes amis, à pleurer. J'ai pleuré. Et plus je pleurais, plus j'entrais dans la souffrance de ces gens-là. Dieu m'a partagé un tout petit peu son cœur. J'ai pleuré. Je me suis vu incapable de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai demandé la grâce de Dieu. Ça a pris du temps, mes amis. Et à la fin, je me suis relevé de ce moment de prière. Quelques temps plus tard, je trouve maman Gisèle brisée, des yeux rougis par les larmes. J'ai dit, voilà, Dieu m'a parlé. Effectivement, il m'avait parlé. Il dit, tu dois faire quelque chose. Effectivement, c'était très très fort. Je lui ai dit, nous devons envoyer quelque chose à Goma. Nous sommes en 2023. Et comme nous connaissions un pasteur, je lui dis, écoute, hein, vous savez, on a toujours des petites économies. Oui, avec mon soutien ici, j'ai un soutien mensuel hein, dont l'argent de la banque ne m'appartient pas. Hein. Et donc, avec nos petites économies, j'ai dit non. Nous devons envoyer quelque chose. Elle m'a dit, chérie, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ainsi qu'on avait commencé à envoyer. Envoyer de l'argent. Avant que je vienne sensibiliser l'église, nous avions déjà commencé. Et à chaque fois, le frère, que je salue d'ailleurs, il m'envoyait les images. Je pouvais voir toutes ces femmes dans la file, avec les enfants, allant chercher à manger, et le frère avec son épouse et une petite équipe, eh bien, avec l'argent, il prenait une partie pour acheter l'essence, il donnait à manger. On a fait ça pendant, je ne vais pas vous dire, ça c'est entre nous et Dieu. Et puis par après, je suis venu ici, je vous ai dit, nous devons envoyer l'argent à Goma. Vous vous rappelez, on avait commencé à envoyer depuis, sans claironner, sans que le monde entier sache, sans qu'on amène des caméras. Moi, j'avais demandé les images, je voulais simplement voir. Et je vous avais balancé les images à quelques réunions de vendredi, n'est-ce pas, pour que vous sachiez que votre argent était bien parti. Mais ce n'était pas pour nous vanter de notre générosité, non, pas du tout. Et donc voilà, nous devons arriver à partager le cœur de Dieu. En entrant dans le cœur de Dieu, en entrant dans sa compassion, à ce moment-là, quand nous nous mettrons devant lui pour prier pour un malade, nous aurons compris la souffrance du malade. Et nous prierons avec autorité, car c'est comme si nous-mêmes nous étions malades. Nous nous serions identifiés à Dieu, et en nous identifiant à Dieu, nous serons identifiés aux malades. Et là, avec autorité, la prière d'autorité, la guérison viendra. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout.